Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Les mondes de Christopher Nolan. Chers auditeurs, je vais vous faire une confidence. J'ai été pris par Interstellar quand Matthew McConaughey dit à sa fille que le rôle des parents, c'est de devenir des souvenirs pour leurs enfants. Le film prend là toute sa dimension sur la filiation, sur l'être et sur la survie de l'humanité. Plusieurs de mes amis étaient pourtant soudain devenus spécialistes de physique quantique pour expliquer que rien ne tenait debout dans cette histoire. Mais Interstellar se joue ailleurs. Il rappelle que la chambre d'enfant est le lieu de tous les rêves. Et que la chambre est aussi le studio de cinéma par excellence. Interstellar est un grand film incompris sur l'urgence de vivre et l'urgence de faire vivre. Si j'ai choisi de commencer cette émission par ce film, c'est parce qu'il est représentatif de la filmographie de Christopher Nolan. Des personnages forts, majoritairement masculins, des fresques, comme Hollywood sait en produire, et surtout des héros un peu perdus, en eux-mêmes et dans le monde. Nolan n'est pas réductible à son image de cinéaste aux narrations compliquées et aux twists, car de réalisation en réalisation, il porte un propos sur les difficultés à habiter les mondes dans lesquels ses personnages évoluent. Que reste-t-il du monde dans l'expérience proposée aux spectateurs, se demande mon invité Timothée Gérardin. Il reste le monde subjectif compliqué de personnages marquants, Bruce Wayne et ses ennemis dans des Batman très sombres, Al Pacino perdant ses repères cognitifs dans Insomnia, les magiciens obsessionnels du prestige et bien sûr l'anti-héros de Memento, noyé dans ses pensées et piégé dans le temps. Il reste précisément des perceptions altérées de l'espace et du temps, que ce soit dans un vaisseau spatial ou à la vision d'une toupie qui tourne et qui pourrait faire signe aussi bien vers le réel que vers le rêve. À moins que tous les mondes possibles ne soient définitivement perdus. Bonjour Timothée Gérardin.
Bonjour.
Timothée Gérardin, vous êtes critique de cinéma et vous tenez un blog très riche de cinéma qui s'appelle Fenêtre, au pluriel, Fenêtre sur cours. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer votre livre sorti en 2018, Christopher Nolan, La possibilité d'un monde qui a été publié aux éditions Playlist Society. Alors peut-être un petit mot, Timothée Gérardin, pour commencer sur Christopher Nolan, qu'on connaît de nom mais sans vraiment le connaître, qui est peut-être quelques éléments biographiques sur ce cinéaste.
Alors Christopher Nolan, il est d'origine anglo-américaine, son père est anglais et sa mère est américaine, donc il a eu une enfance partagée entre Londres et Chicago, et puis il a fait des études littéraires à l'University College de Londres, et c'est un peu là qu'il a fait ses armes dans le cinéma, puisqu'il y avait un ciné-club avec tout un matériel en fait de captation, et donc il a fait ses premiers courts-métrages là-bas. Il a fait deux courts-métrages, aujourd'hui invisibles ou perdus, qui s'appellent Larceny et Tarantella. Et c'est là aussi qu'il a rencontré sa future femme, Emma Thomas, qui deviendra ensuite sa productrice, et qui, voilà, qui l'est encore aujourd'hui à travers la société de production Syncopy.
Il part, Christopher Nolan, il part relativement tôt dans la carrière aux États-Unis. C'est-à-dire que d'habitude, si on prend les trajectoires de Hitchcock ou de John Woo, on fait quelques films dans son pays natal, et puis on tente la carrière à Hollywood. Et là, alors c'est peut-être parce qu'il est anglo-américain, mais finalement, la carrière américaine, elle arrive assez tôt avec des longs métrages, enfin un long métrage comme Memento puis Insomnia, avec des acteurs connus.
C'est vrai.
Tôt.
En fait, c'est son premier film américain, c'est Memento, mais avant, il avait quand même tourné Following en Angleterre, qui avait déjà un peu fait la tournée des festivals, et qu'il avait produit avec toujours ce groupe d'amis anglais à côté de leur travail, le week-end, les vacances, etc. Et puis, ça avait eu son petit succès d'estime en festival. Du coup, il s'est lancé, il est parti aux États-Unis, et il a monté ce projet de film Memento, qui était une idée initiale de son frère, Jonathan Nolan, qui collaborera par la suite avec lui sur plusieurs films au scénario. Ils ont eu cette idée sur un trajet en voiture pendant un déménagement de Chicago à Los Angeles, où ils sont un peu monté le bourrichon sur cette histoire de souvenirs, de films tournés à l'envers, etc. Et donc ça a donné d'un côté un film pour Christopher Nolan et de l'autre une nouvelle pour Jonathan Nolan qui s'appelle Memento Mori.
Alors, on va rester sur l'idée précisément de ces souvenirs et de ces éléments un peu inversés, parce que vous insistez beaucoup dans votre ouvrage, Timothée Gérardin, sur le fait que Nolan aime bien, et c'est vraiment la marque de fabrique de son cinéma, jouer sur des perceptions déformées, qui sont à la fois les perceptions déformées des personnages, mais on ne le sait pas toujours, et puis qui donnent aussi à voir des perceptions, ou qui amènent des perceptions déformées chez le spectateur.
Oui, en effet, en fait, il s'est fait connaître avec des films qui portent précisément sur des pathologies, quoi. Donc, Memento, c'est assez clair parce que c'est l'amnésie. Insomnia, bah, c'est l'insomnie. Et même Batman Begins, d'une certaine manière, c'est un Bruce Wayne, c'est un personnage qui a été traumatisé dans son enfance par le meurtre de ses parents, par une chute dans un puits, etc. Donc, il y a aussi cette idée de traumatisme qui va, en fait, conditionner le regard. Et altérer la perception. Et en fait, ce qui est intéressant, donc ça c'est la base scénaristique, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nolan il utilise ses pathologies pour en faire vraiment un parti pris esthétique. Et donc ça donne quoi ? Ça donne des films morcelés qui jouent avec la subjectivité. Donc souvent ce sont des films non linéaires. C'est typique sur Memento, qui est carrément un film tourné à l'envers, se focalisant souvent sur des détails. Il y a une obsession des détails, des petits moments de vie, et où il y a beaucoup de coupes. Le montage est très très important parce que il fonctionne vraiment par la discontinuité, donc par la coupe.
Si on reste sur cette question précisément de la subjectivité, si on prend un film alors qui est peut-être un peu différent des autres et qui est le dernier, qui est Dunkerque. Dunkerque, alors le personnage a pas de pathologie, mais enfin il est quand même pris dans quelque chose d'assez. Le personnage qui essaye là d'embarquer, hein, il est pris dans quelque chose d'assez terrible. C'est un film où on suit quand même là aussi les états successifs d'un personnage qui est complètement ballotté. Par la guerre et par ce qui se passe à ce moment-là à Dunkerque.
Et ce qui est intéressant pour le coup dans Dunkerque, c'est la manière dont il pousse à bout une idée justement qui est la relativité du point de vue en jouant avec le temps. C'est un truc qu'on retrouve dans plusieurs de ses films, c'est que les points de vue sont relatifs et donc le temps est élastique. C'est le cas dans Inception où en fait plus on pénètre profondément dans des strates de rêve, plus le temps s'étire. C'est le cas aussi dans Interstellar
ouais.
Où bien sûr on a la question de la relativité. Une heure passée à l'autre bout de l'univers, c'est en fait 20 ans passés sur Terre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Dunkerque, il a tellement habitué le spectateur à jouer avec la relativité des points de vue qu'il n'a plus besoin de justification scénaristique pour justifier cet étirement des points de vue. Et il le fait en fait dans son scénario directement avec un point de vue d'une heure, d'une journée et d'une semaine, mais qui s'imbrique dans un seul film, quoi.
Oui, qui marche bien du point de vue du spectateur.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on se sent jamais décalé, alors même que les temps qu'on nous montre sont peu décalés.
Donc d'une certaine manière, il a réussi à imposer. Enfin, c'est un film assez expérimental parce qu'il impose sa propre grammaire. Il a cette force de persuasion qui fait qu'il peut imposer sa grammaire et sa manière de gérer le temps.
Il essaye donc de faire partager ces états subjectifs très particuliers de ces personnages. Ça passe aussi par un travail sur le support cinématographique. Et vous dites, Timothée Gérardin, que par exemple, c'est un grand amateur, Christopher Nolan, de l'IMAX. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un écran spécifique, ça ?
Alors c'est deux choses, l'IMAX. C'est à la fois une manière c'est une pellicule. Donc c'est un format d'image, quoi. Et c'est surtout l'IMAX, c'est des cinémas spécifiques qui sont programmés pour pouvoir diffuser ce type de pellicule qui a été imprimée. Et l'originalité de l'IMAX, c'est que là où longtemps les évolutions du cinéma, ça a été élargir l'écran, élargir le plan. L'IMAX, il élargit le plan, enfin
il l'étire, mais
il l'étire par la hauteur, quoi. Et du coup, ça a pour effet d'augmenter en immersivité, quoi, en immersion.
C'est-à-dire qu'on est vraiment, on est pris dans l'image.
Ça. Et donc, effectivement, dans les salles de IMAX, les vraies salles IMAX, comme il y en a par exemple à Londres, l'écran est un peu incurvé. Et donc il y a vraiment cette notion d'immersion.
Oui, on est entouré oui. par l'image. Alors Timothée Gérardin, est-ce que chez Nolan on trouve aussi cette idée au fond que, alors qui est très cinématographique, mais que la réalité n'est pas saisissable directement, c'est-à-dire qu'elle est faite d'un tissu de points de vue qu'il faut essayer de recoudre?
Oui, et surtout en fait sur l'opposition entre le rêve et la réalité, l'originalité je pense de Nolan, c'est de totalement retourner l'opposition habituelle généralement, on a des personnages qui sont coincés dans la réalité et qui vont chercher à s'évader par le rêve. Et là, on a la situation totalement inverse. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui, d'emblée, sont coincés dans leur rêve et dont toute la quête, c'est de toucher la terre ferme, quoi. C'est de rejoindre la réalité. Et donc, c'est... En fait, j'ai essayé de théoriser dans le livre l'idée de monde dans tous les sens que ce terme peut avoir et qui est, pour les personnages de Nolan, quelque chose d'inaccessible. Donc, le monde, c'est quoi ? C'est une réalité tangible. Donc, dans Inception, typiquement, on a des personnages qui n'arrivent pas à avoir accès à la réalité tangible. Le monde, c'est aussi un tout cohérent, unifié, compréhensible. Et ça, c'est dans Memento, on a un personnage qui n'arrive pas à recoller les morceaux, à construire le puzzle pour avoir un rapport au monde comme quelque chose d'unifié. Et le monde, enfin, c'est aussi une réalité sociale. Cohérente aussi, sociale et politique. Et Batman, du coup, c'est un personnage qui essaie de préserver le monde du chaos, donc qui essaie de préserver l'unité politique du monde dans lequel il se trouve.
C'est donc des personnages qui vraiment essayent d'habiter le monde parce qu'ils en sont exclus, ils en sont repoussés parce qu'ils ont un problème, ils ont une pathologie, ou ils sont trop loin, ou ils n'arrivent pas à habiter le monde, visiblement.
Oui, voilà, ça, souvent, c'est des personnages qui ont perdu quelque chose. Donc, ils sont perdus, mais parce qu'ils ont perdu quelque chose. C'est souvent des films de deuil. La plupart des personnages de Nolan sont veufs. Donc c'est le cas dans Memento, c'est le cas dans Interstellar, c'est des personnages qui c'est le cas dans Inception aussi, ce sont des personnages qui avaient un rapport au monde qui était conditionné par exemple la vie avec leur femme ou avec leur famille, et qui va se trouver mise en cause par des événements. Dans Interstellar, c'est encore plus littéral, c'est la planète.
Oui, c'est le monde entier qui risque de mourir.
C'est littéral, en fait. Ils sont en train de perdre le monde littéralement, ils doivent aller en chercher un nouveau.
Ouais.
Donc il y a toujours cette idée de perte, en fait. Tout le paradoxe, c'est que plus les personnages cherchent à retrouver le monde, plus, en fait, ils créent leur propre nouveau monde qui, en fait, chasse l'ancien. Donc c'est un peu une quête impossible
soit il s'éloigne, soit il redevient inhabitable perpétuellement.
Voilà, c'est ça. Et parfois aussi le fait de vouloir recréer un monde fait disparaître le précédent, quoi.
Le monde initial. Oui. Vous écrivez, Timothée Gérardin, les films de Nolan s'intellectualisent au montage. Alors cette idée, c'est quoi ? C'est l'idée que, au fond, c'est par le montage ne va pas s'occuper uniquement de la narration, mais il va à la fois rendre le film cohérent, proposer les pistes de perspective possibles.
Oui, en fait, le montage est vraiment, je pense, au centre de sa manière de fonctionner. Et d'ailleurs, ses tout premiers films, il était lui-même monteur de ses films, enfin, sur Following en tout cas, et ses courts-métrages au début. Donc on voit que c'est vraiment son souci principal, quoi, le montage. Et ça cristallise, je trouve, un paradoxe de Nolan, qui est à la fois qu'il est obsédé par les petites choses concrètes de la vie, la texture du réel, les choses comme ça, et en même temps, c'est quelqu'un de très cérébral. Et en fait, c'est dans le dialogue entre les deux que le montage joue un rôle. Et donc, c'est à la fois un réalisateur qui est à la fois viscéral et cérébral, quoi. Et oui, dans le livre, j'essaye de définir trois fonctions que Nolan donne au montage. La première, c'est une fonction, je dirais, immersive, un peu impressionniste. C'est un montage souvent assez abrupt, dont le but, c'est de créer une atmosphère. Il y a une autre fonction qu'il donne au montage, c'est une fonction explicative, schématique, rationnelle. C'est tout ce qui lui permet de donner des points de repère au spectateur. Dans Inception, c'est vraiment flagrant quand on a le montage alterné avec toutes les strates de rêve, où il s'applique très précisément à montrer ce qui se passe à un moment M, dans toutes les strates, tous les étages du rêve, quoi. Donc ça, c'est la fonction schématique. Puis il y a la fonction plus classique, qui est la fonction narrative, où il fait avancer l'histoire via le montage. Mais même dans ce cas-là, il se distingue en faisant encore plus de coupes que d'autres réalisateurs. Il est vraiment, c'est pas un grand adepte du plan séquence.
Du plan très long,
il fonctionne vraiment par coupe. Et, Et souvent, en fait, là, je distingue ces trois types de montage, mais bien sûr, il y a des scènes et des séquences où les trois fonctionnent en même temps, quoi. On a ça dans The Dark Knight, par exemple. On a une superbe séquence où c'est en fait le Joker qui met en place un piège ou qui a un impact sur plusieurs personnes en même temps. Et donc, il y a une espèce de montage pyramidal qui montre ce qui se passe. À chaque lieu en même temps. Donc là, on est à la fois dans l'immersion, dans la rationalité de l'explication et aussi dans le faire avancer l'histoire, quoi.
Alors ça donne des films assez complexes et ça donne des films qui sont aussi beaucoup sujets à interprétation. On va pas y revenir, il y a des spécialistes de ça, hein, sur Internet. On trouve plein de choses autour de la toupie, tourne-t-elle ou s'arrête-t-elle. Par contre, et c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est quand même des films qu'il faut revoir une deuxième fois parce que là, pour le coup, il y a plein de choses qui s'éclairent. Hein. Vous dites il faut les voir une fois pour les croire et la deuxième fois pour les comprendre. C'est comme un tour de magie, dites-vous.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, il y a l'idée que... Nolan est vraiment très pédagogue. Enfin, il fait à la fois des films compliqués et en même temps, il est pédagogue. Donc, c'est un peu paradoxal, mais l'idée, c'est que c'est des films compliqués parfois à comprendre, mais on sait que tout est dans le plan. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'intérêt à le revoir. C'est parce qu'on sait qu'on va forcément voir de nouvelles choses et que Nolan donne les outils aux spectateurs pour comprendre, quoi.
Oui, c'est ça, il ne va jamais perdre absolument son spectateur. Alors, il y a un usage très particulier des objets, dites-vous, Timothée Gérardin, chez Nolan. Qu'est-ce qui fait de ces objets? Est-ce que c'est des fétiches? Est-ce que c'est des signes? Est-ce que c'est les deux? C'est-à-dire la toupie, par exemple, hein, dans Inception. Voilà, ça fonctionne comment, ce rapport à l'objet qui est central, hein, vraiment, chez Nolan, dites-vous?
À nouveau, je pense que ça cristallise une dualité. Effectivement, entre quelque chose de très, c'est un objet concret. C'est amusant parce que la toupie, typiquement dans Inception, c'est à la fois quelque chose de il y a le côté signe parce que c'est ce qu'on est dans le rêve, dans la réalité. Donc c'est vraiment c'est ce qui va éclairer le film. Donc il y a un côté symbolique, etc. Mais à l'inverse, il y a un côté très précis. Ils sont filmés souvent de très près, ces objets, et même on voit les personnages les manipuler, les soupeser, les toucher et c'est ça qui leur fait savoir si c'est le rêve ou la réalité.
Alors c'est ça qui leur permet aussi d'habiter un peu le monde, c'est-à-dire qu'il y a une tangibilité peut-être des objets.
Ah ben oui, ce qui est sûr, c'est que c'est pour ça que je parle de fétiche dans le livre, c'est parce que les objets sont toujours un peu plus qu'eux-mêmes, quoi. Ils portent un monde avec eux. Et d'ailleurs, l'ouverture de Following, c'est ça, c'est une boîte à objets qui est ouverte, et un à un, les objets sont sortis de la boîte, et ils sont filmés de très près. Et après tous ces films, les personnages vont avoir un rapport aux objets très obsessionnel. Dans Memento, c'est aussi le personnage qui a son petit sac de souvenirs personnels qui lui permet un peu de se repérer. Dans Le Prestige, bien sûr, c'est les accessoires de magicien. Dans Batman, c'est les gadgets. Il y a toujours cette idée que les objets sont à la fois des choses concrètes et en même temps, ils vont permettre de composer un monde, quoi. Et d'ailleurs, dans Memento, les objets que le personnage transporte avec lui, ils vont lui servir à un moment, par le montage justement, à se souvenir de sa femme. C'est littéralement, il va disposer les objets autour de son lit, il va s'endormir. Et puis au réveil, dans le sommeil, il va avoir le rêve, il va se souvenir de sa femme. Et voilà, c'est vraiment les objets qui ont éveillé un monde, quoi. Donc il y a un côté un peu animiste.
Oui, c'est ça, ils ouvrent, ils sont habités. On va écouter un extrait alors, du film Interstellar, où l'on entend notamment le début d'un très beau poème de Dylan Thomas qui s'intitule « Do not enter gentle into that good night ».
Amelia, be safe. Give my regards to Dr. Mann.
I will, Dad.
It looks good for your trajectory. We've calculated 2 years to Saturn.
It's a lot of drama, me. Look after my family, will you please, sir?
We'll be waiting for you when you get back. Little older, a little wiser, but happy to see you. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end, no dark is right. Because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.
valeur de l'homme, fréquence protestante, les mondes de Christopher Nolan. Nous sommes en compagnie de Timothée Gérardin. On a entendu la voix de la belle voix et le bel accent british de Michael Caine. Et alors ce poème, il a évidemment un sens dans le film. Et puis il a plusieurs sens aussi. Il n'a pas été choisi pour rien par Christopher Nolan.
Oui, parce qu'il me semble que c'est un poème sur le deuil. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, les personnages de Nolan sont souvent veufs et ont toujours perdu quelque chose. Et ils vont devoir affronter un peu cette grande nuit et s'y retrouver, quoi.
Ouais, et où on n'entre pas posément, quoi, voilà, visiblement. Alors, vous dites dans votre ouvrage, les personnages de Nolan sont des sédentaires contrariés. Ça marche bien, ça, dans le cas d'Interstellar. C'est-à-dire qu'il va partir, le héros joué par Matthew McConaughey. Il va quitter sa fille alors qu'elle lui explique qu'il ne faut absolument pas partir. Donc, voilà, il y a un problème. Il a l'air très terrien au début. Ça se passe, il y a des champs de maïs et tout. Mais il faut quand même partir.
Ouais. Oui, c'est des nomades malgré eux, quoi, en quelque sorte. Et donc, effectivement, ouais, c'est des personnages qui ont perdu un peu l'accès au monde. Et d'ailleurs, ils se retrouvent ensuite dans un labyrinthe. L'idée du labyrinthe, elle est théorisée dans Inception, puisque c'est un thème du film. Et il y a d'ailleurs le personnage d'Ariane qui est censé l'aider à se repérer dans le labyrinthe. Mais tout le paradoxe, et c'est là que je voulais aussi introduire quelque chose, c'est que ils sont à la fois perdus et manipulés assez souvent, mais ils sont aussi manipulateurs. Et il y a toujours ce paradoxe, on voit dans le Prestige par exemple, c'est vraiment ce double, on a des personnages qui un coup sont manipulés, l'autre deviennent manipulateurs.
Oui, ils se surveillent mutuellement les deux magiciens.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui rejoint l'idée sur les objets, parce que les objets, c'est des outils aussi qui servent à manipuler. On a ça bien sûr dans le Prestige, mais très souvent aussi bien sûr les gadgets de Batman, voilà, c'est des choses pour faire diversion, pour créer des tournois de magie, quoi. Et donc il y a ce côté, en fait, c'est à la fois des gens perdus et des gens qui vont manipuler. Et il y a ce côté, enfin, ça me fait penser à la formule de Cocteau qui disait: puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Il y a cette idée, en fait, que on va manipuler tout en étant manipulé. Et en fait, ça sert juste à essayer de garder la tête haute dans cet univers un peu absurde, quoi.
Mais ça fait aussi partie, effectivement, de ces différents niveaux de lecture, parce qu'à un moment, on ne sait plus exactement qui manipule qui, mais on sent bien que, effectivement, ça manipule. Alors, un mot peut-être sur les méchants. Timothée Gérardin, vous dites qu'ils font signe aussi, et vous avez un passage très intéressant dans l'ouvrage où vous nous dites, par exemple, les méchants de Batman, mais pas seulement, mais c'est ceux qui vous ont beaucoup intéressé. Chaque méchant renvoie à un régime politique particulier et un régime moyennement démocratique. On peut peut-être dire un mot de ça.
En fait, j'ai essayé de relier effectivement chacun des méchants à une dérive, en quelque sorte une dérive de la démocratie, quoi, un dévoiement de la démocratie. Par exemple, si je passe en revue les différents méchants, on a qui? On a dans Batman Begins, on a Ra's al Ghul, qu'on pourrait rattacher au fascisme. C'est le maître d'armes de Batman qui va l'initier, qui est le maître d'une espèce d'organisation secrète. Et ce qu'il rattache au fascisme, c'est quoi? C'est que déjà, il est persuadé de faire partie d'une petite caste de personnes supérieures qui peuvent décider du sort de l'humanité. Et d'autre part, il y a ce penchant pour la destruction, le nihilisme, etc., parce qu'ils veulent détruire Gotham. Donc voilà, ça c'est pour la partie de Ra's al Ghul. Dans Batman Begins, on a aussi l'épouvantail, qui, lui, en fait, le régime politique auquel on pourrait rattacher, c'est la guerre civile, donc c'est pas vraiment un régime, mais c'est
oui, une situation politique,
c'est la guerre de chacun contre chacun, quoi. Et pourquoi? C'est parce que la propriété de ce personnage, c'est d'être le miroir des peurs des gens à qui il s'adresse. En fait, il a une espèce de gaz hallucinogène qui fait voir aux gens,
leur pire
cauchemar. Et du coup, en diffusant ce gaz hallucinogène dans les conduits de la ville, il veut en fait répandre la terreur dans la ville. Après, on a quoi? On a le Joker, dans Dark Knight, ouais, qui représenterait l'anarchisme. Pourquoi anarchiste? Déjà parce que c'est quelqu'un qui va subvertir l'ordre établi. Et c'est assez fascinant de Dark Knight, la manière dont il prend un peu le contrôle du film. Vraiment, le héros n'est plus vraiment Batman, ça devient le Joker. Et il prend aussi un peu le contrôle de la mise en scène. parce que voilà, il a ce rôle très théâtral, et même on a l'impression que parfois c'est lui qui est en train de monter les séquences. Il est vraiment dans la manipulation de l'image, quoi. Donc ça, je trouve ça super intéressant, et aussi sa quête a quelque chose de gratuit, c'est-à-dire que il va pas faire cambrioler pour l'argent. On voit d'ailleurs qu'il y a la masse d'une montagne de billets qui finit par brûler.
Par brûler, ouais. C'est vraiment une forme de. Alors pour le coup, c'est un peu nihiliste aussi, c'est une espèce de. Il n'y a pas de conséquences. Enfin, voilà, amusons-nous.
Ça, exactement. Et d'ailleurs, amusons-nous. Donc c'est le Why So Serious qui dit à un moment à Batman. Et c'est super intéressant parce que Nolan, on lui a beaucoup reproché d'être très sérieux, très pompeux, etc. Et là, on a un personnage qui, à l'intérieur d'un film de Nolan, prend le contrôle et dit mais c'est quoi ce truc super solennel, déconnons un peu, et qui fait n'importe quoi.
Ouais, donc finalement tout le monde se fait plaisir avec le personnage.
Exactement,
du Joker.
C'est vraiment un personnage très intéressant de ce point de vue là. Dans The Dark Knight, on a aussi le personnage de Double Face, et ça c'est très intéressant parce qu'il commence par ressembler à un Robert Redford des Hommes du Président, un peu un idéaliste.
Il est
procureur, il va lutter contre la corruption de la ville, etc. Et puis, suite à une explosion, il perd la moitié de son visage, et surtout, il perd sa fiancée. Et il vrille complètement, et il devient adepte de l'autodéfense, Inspecteur Harry et compagnie.
Ouais, vigilante.
Voilà,
c'est vigilante
ça.
Movie.
Donc, pareil, c'est aussi une dérive possible de la démocratie libérale, c'est l'auto-justice. Donc ça, c'est intéressant aussi, la manière dont Nolan recycle les influences cinématographiques à ce niveau-là, quoi.
Ouais, donc Gotham reste vraiment un laboratoire d'expérience politique.
Et on allait oublier Bane. Bane, qui est le grand méchant de The Dark Knight Rises, et qui lui, pour le coup, est inspiré des révolutionnaires français. Donc c'est un peu la terreur, c'est le comité de salut public, etc. Et c'est un démagogue, c'est quelqu'un qui
harangue les foules.
Qui harangue les foules, un tribun, quoi, qui harangue les foules et qui va jouer sur le côté explosif du peuple, quoi.
Dans tous les sens du terme.
Exactement.
Est-ce qu'on peut dire, Timothée Gérardin, et ça m'a beaucoup frappé en regardant Le Prestige, qu'au fond, Christopher Nolan utilise le médium cinéma comme un magicien pourrait le faire? Au fond, c'est un illusionniste moderne?
Oui, tout à fait. Alors, il y a clairement dans le film une analogie qui est faite entre le magicien et le réalisateur, dans la manière dont, en fait, il décrit sa propre manière de fonctionner. Il décrit le tournoi magique qui a lieu en trois parties, qui sont The Pledge, The Turn et The Prestige. The Pledge, c'est un peu le pacte qu'on passe avec le public au début. Le tour, c'est le tour de magie en lui-même. Puis le Prestige, c'est le coup d'éclat final. Et c'est amusant de voir comment cette structure ternaire peut être reprise dans les films de Nolan. Si on poussait un peu l'analyse un peu plus loin, on pourrait dire que la trilogie de Batman, c'est un peu ça. C'est un personnage qui, dans The Dark Knight, dans Batman Begins, c'est le premier film. Voilà, il faut recréer, rendre à nouveau crédible ce personnage, le mettre dans une réalité concrète. Dans le deuxième film de Dark Knight, en fait, il disparaît quasiment du film, parce que c'est le Joker qui prend le pouvoir, et puis même à la fin du film, il disparaît.
Donc ça, c'est le tour où on fait disparaître quelqu'un.
C'est le tour où on fait disparaître, et puis le dernier, c'est la réapparition de Batman, le fait qu'il revienne, et on est en plus dans ce... Enfin, il n'en finit pas de revenir, quoi. Il y a un côté... parce que plusieurs fois dans le film, on pense qu'il est mort, en fait, il ne l'est pas. Il y a un côté vraiment comme ça, un peu coup d'éclat, quoi. Je pense qu'on pourrait... on pourrait, dans la plupart de ces films, essayer de regarder comment ça se passe en trois parties. On pourrait réussir à retrouver, je pense, ce principe. Et ce qui est très important à chaque fois, c'est pas forcément le tour en lui-même, c'est le début et la fin. C'est le pacte qui est passé au début et qui va faire que le spectateur, en fait, s'illusionne lui-même sur ce qu'il est en train de voir.
Va croire un certain nombre de choses.
Exactement. Et la fin, où c'est la révélation.
Très bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter sur ces mots. Ça donne envie, évidemment, de revoir toute la filmographie de Christopher Nolan en appliquant la grille que vous avez proposée, Timothée Gérardin. Je vous remercie beaucoup pour votre présence.
Merci.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Christopher Nolan, La possibilité d'un monde, publié aux éditions Playlist Society. C'est sorti en 2018. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. Et on termine en écoutant ces quelques notes de Hans Zimmer pour Interstellar. À bientôt.